Radio Campus Paris.
Et il est 19h et il y a de nombreux points communs entre mon lave-linge et un gouvernement de gauche. On m'avait promis une livraison fin août, j'avais fait tout le nécessaire et finalement, pas de nouvelles de mon lave-linge, mais à la place j'ai reçu un frigo. Alors la comparaison entre Michel Barnier et mon frigo tient moins la route, notamment parce qu'en 1980, mon frigo aurait très probablement voté pour la dépénalisation de l'homosexualité. Mon frigo est d'ailleurs résolument queer puisqu'à l'intérieur on y trouve du houmous, du lait végétal et mon vaccin contre l'hépatite B dont je ne me suis pas encore occupé. Alors je viens de sous-entendre que Michel Barnier était homophobe. Et pour Jean Quatremer, éditorialiste à Libération, cela relèverait, je cite, de la boule puante populiste. Dans un billet assez surréaliste où il nous mansplaine l'histoire de la répression de l'homosexualité en France, inventons au passage qu'après 74, année où l'âge de la majorité sexuelle pour les rapports homosexuels est abaissé à 18 ans, la police aurait cessé de tourmenter les PD, le journaliste explique le vote de Michel Barnier. Celui-ci ne faisait que suivre les consignes de vote qu'à 31 ans et élu depuis seulement 3 ans, il ne pouvait pas refuser. Comme si le contexte politique rendait le vote de Barnier plus acceptable. Sur son blog Mediapart, l'historien Antoine Didier propose quelques rappels historiques. D'une part, il faut savoir qu'il y a encore une bonne centaine de condamnations par an dans les années 70 pour homosexualité. Et d'autre part, Michel Barnier ne s'est pas seulement opposé à la dépénalisation de l'homosexualité, il a carrément voté pour la réintroduction de ce texte hérité du maréchal Pétain, alors qu'il avait été supprimé par un texte de loi en discussion à l'époque. Bref, je ne sais pas donc ce qu'il y a dans le frigo de notre nouveau Premier ministre, mais ça sent quand même pas très frais.
Salut le lobby, ça va le lobby?
Assez cette société qui ne respecte pas les français brûlés et pédés.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT sont pas des questions à part.
C'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
On m'en va, t'es foutu, les homos sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitch.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais...
Je raisonne jamais en termes d'espoir, je raisonne en termes de ce qu'on peut agir.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Et on est parti pour une heure en direct sur le 93.9 FM et je vous présente la petite équipe qui va bercer vos oreilles aujourd'hui. On a d'abord Antonella avec nous. Salut Antonella.
Salut Colin.
Je ne te demande pas ce qu'il y a dans ton frigo, ça va être étrange en fait comme présentation si je fais ça pour chacun des membres de l'équipe.
Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Pas grand chose, des sauces de sushi shop qui restent.
Très bien, allez super. Et à tes côtés il y a également Chat. Salut Chat.
Salut Colin.
Merci d'être avec nous aussi ce soir. Et puis deux invités sont en plateau ce soir jusqu'à 20h en seconde partie d'émission. En fait un anniversaire. Celui de Queer sur l'herbe, ce sont donc des shows queer en plein air au but de Chaumont, en pleine journée et surtout gratuit. Queer sur l'herbe fête donc ses 3 ans ce 14 septembre, on en parle avec Jeanne qui organise ces événements. Mais avant, de la bande dessinée est au programme du lobby ce soir avec notre premier invité. Après Toutes les princesses meurent après minuit, qui a été couronné du prix spécial du jury jeunesse au festival d'Angoulême 2023, il est de retour pour notre plus grand plaisir. Son dernier ouvrage est adapté d'un roman d'un auteur mexicain, Mario Bellatin. Il s'appelle Salon de beauté, et c'est un chef-d'œuvre. Quentin Zution est avec nous.
Salut.
Le lobby.
Tout le monde.
Radio Campus Paris.
Bonsoir Quentin Zution.
Bonsoir.
Bienvenue dans le lobby.
Tu es entre mes mains maintenant, Quentin Zution, et non pas Zuiton. Je suis terrifiée à l'idée de me tromper, car je voudrais pas que tu quittes le plateau en claquant la porte. On serait vraiment emmerdés pour faire une heure d'émission sans toi. Moi, j'ai fait ta rencontre l'année dernière par le biais de ta BD « Toutes les princesses meurent après minuit » qui avait reçu un fauve à Angoulême. Aujourd'hui, on va parler de ta dernière sortie. Mais avant, pour les auditoristes qui ne te connaissent pas encore, j'ai envie de faire un petit jeu parce que je me sens d'humeur un peu fofolle ce soir, ludique, voilà, c'est tout moi. Alors, j'aimerais qu'on te présente de façon un peu originale. Si tu étais un livre, Quentin Zution, tu serais quoi ?
C'est compliqué là, quand surtout moi j'ai pas eu les questions avant, dis donc, c'est pas cool tout ça. Si j'étais un livre, je serais Lambeau de Charles Julliez.
Pourquoi?
Je sais pas, rapport à la mer sans doute.
Ah, on va en reparler, c'était une question qui me surlupinait. Je vais continuer de t'embêter. Si tu étais un film, tu serais quel film?
Virgin Suicides, rapport à la mer aussi.
Très belle musique, Virgin Suicides. Et si tu étais une chanson?
Moi, Lolita, d'Alizé.
Rapport à la mer aussi?
Non.
Non, pas du tout.
Peut-être. Rapport à Mylène, la mer.
Notre mère à tous. Est-ce que tu étais un plat?
Des gnocchis.
Très bon choix.
À poilé.
Ok. Vraiment, moins bon choix, voilà. Mais je te respecte quand même.
Si, si. Et maintenant, il faut même les gnocchis avec du fromage dedans à poilé.
Oui, ça, c'est merveilleux.
Voilà.
Bon, la dernière, si tu étais un animal?
Un raton laveur.
Oh, C'est rigolo. C'est original.
C'est hilarant.
Bon, alors maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va parler de ta dernière sortie, ton dernier livre qui s'appelle Salon de beauté. Et en fait, derrière cet album, il y a un roman qui date de 1994. C'est Salon de belleza de l'écrivain mexicain Mario Bellatin. J'imagine qu'on le dit comme ça. Raconte-moi un peu comment tu as rencontré ce roman. Enfin, tu l'as lu à quel âge? Pourquoi ça t'a touché?
Alors, je l'ai lu. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai lu finalement assez récemment. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est mon éditrice donc, qui travaille chez Dupuis qui, elle, avait... lu ce livre il y a déjà quelques années et qui en tout cas cherchait à en acquérir les droits pour en faire une bande dessinée. Et elle m'a contacté et en pleine pandémie par ailleurs. Donc je trouve que c'est marrant puisque bon après ça parle, ce livre parle également d'une épidémie. Et j'ai tout de suite adoré le livre en fait. Moi j'avais rien, je me souvenais pas avoir lu ou même vu en film tout ça. Enfin, quelque chose sur l'épidémie VIH d'aussi poétique et onirique. Enfin, même s'il y a moins de métaphores dans le roman original que moi j'en ajoute dans la BD, mais en tout cas ça m'a projeté dans plein d'images, donc je me suis dit bon, bah, c'est du pain béni pour en tout cas un roman graphique quoi. Et oui, tout ce que j'avais vu sur ce sujet, même en grandissant, même en me découvrant moi-même petit PD, etc., c'était plus du documentaire ou alors des fictions, mais des fictions très, très ancrées dans le réel, quoi. Ben, voilà, enfin, du genre de 120 battements par minute, où c'est de la fiction, mais en tout cas, c'est quand même très ancré dans l'époque, très ancré, ben, enfin, Act Up, etc. Enfin, et là, ouais, je trouvais que c'était comme un pas de côté.
Est-ce
aussi.
Que tu veux nous dire en quelques mots de quoi il parle ce roman
Bien sûr, je peux te dire en quelques mots. Alors, c'est l'histoire de trois travestis qui ouvrent un salon de beauté, enfin, qui sont déjà installés dans leur salon de beauté. Le personnage principal, donc, c'est le patron de ce salon qui s'appelle Jeshua et qui est fan, en tout cas un peu obsessionnel, sur les aquariums et les poissons. Donc, il va décorer tout son salon comme ça, avec plein d'aquariums et tout, puisqu'il considère que comme ça, il plonge ses clientes dans l'eau et elles ressortent sublimées par ses propres soins. C'est comme ça qu'il se voit, en tout cas. Et en même temps, bon, bah, ils ont leur petite vie, leurs clients. C'est trois homos aussi voilà, qui font la fête, qui baisent, etc. Et une épidémie mystérieuse va arriver, va d'abord toucher les poissons, puis va toucher les hommes, et son salon de beauté va se transformer en mouroir pour les hommes touchés par la maladie. Voilà.
Et comment est-ce qu'on met un roman en image? Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel a été ton processus créatif, en fait, comment on en est arrivé à ce magnifique livre, hein, qui a des images sublimes, des couleurs incroyables. En fait, comment on passe des mots à l'image?
On galère. on fait une thérapie d'un an et demi. Non, parce que moi, en fait, ça a été assez dur quand même de m'approprier pleinement le livre vite. En fait, j'ai cru que ça allait être simple et pas du tout. Parce que, comme je disais, donc, le livre m'offrait déjà une matière visuelle, en tout cas que je visualisais hyper riche et forte. Mais après, donc, moi, c'était la première fois que j'adaptais, que c'était pas moi qui, en tout cas, qui créais mes personnages, etc. Et donc, déjà, il a fallu tout un temps pour m'autoriser, je pense, à corner un peu le livre original. Finalement, je l'ai corné beaucoup. Je me suis corné moi-même aussi. Et, un des moyens que j'ai trouvé, en tout cas, pour vraiment m'approprier ces personnages, qui sont très mystérieux dans le roman en plus, parce qu'ils n'ont pas de... C'est pas dialogué du tout. Ils nous parlent hein, de ses collègues, mais on ne sait pas quelle personnalité ils ont. On ne sait pas s'ils sont marrants, on ne sait pas s'ils sont chiants ou mélancoliques ou tout ça. Donc, tout était un peu à créer. Et donc, c'était un peu vertigineux, finalement. Et moi, ma technique, ça a été de m'inspirer de mon entourage, aussi pour les acolytes du personnage principal, et en toute humilité, de moi-même, pour le personnage principal, puisque je lui ai clairement donné même mes traits physiques, quoi.
Moi, il y a une question que je me posais parce que vous disiez vous n'avez pas forcément lu ou regardé des œuvres qui traitent du VIH autrement que d'un point de vue plus documentaire ou en tout cas très inspiré de faits réels. Est-ce que justement, ça veut dire que ça manque que Salon de beauté, l'œuvre de Mario Begatin et votre adaptation viennent combler un manque, en façon d'investir le champ du VIH-SIDA par la fiction ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a un manque. Il y en a énormément. Ça a été de toute façon, même pendant longtemps, il n'y a que comme ça qu'on montrait les PD. Mm. C'était que en mourant. Mm. Et non, moi, d'ailleurs, moi, j'étais même plutôt un partisan de bon, bah, c'est bon, on en a marre, maintenant on veut des histoires d'amour qui finissent bien ou tout ça. Bon, bah, raté quoi. J'ai fait. Mais je pense que c'était intéressant aussi dans mon propre parcours de me rendre compte que moi aussi, en fait, j'avais peut-être encore besoin de pleurer un bon coup. Avant de me remettre à des histoires plus lumineuses, ma BD d'avant était quand même plus solaire, même si c'est une fin un peu douce amère. Et je me suis beaucoup posé la question pour celle-ci. J'ai un peu lutté contre mes réflexes aussi, où oui, c'est pas un final très joyeux là. Et je m'étais demandé, est-ce que je fais un dernier twist, une dernière échappée, quoi, je sais pas. Mais en fait, je me suis dit, mais non, là, tu le fais que pour toi. Que pour ton petit, tes petits problèmes un peu perso et où t'as besoin de. Et en fait, ouais, je me suis dit, non, là, chiale, Quentin, et arrête de faire chier tout le monde.
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question avant la pause musicale ? Ben justement, on va parler de musique, on va essayer de se consoler un petit peu. Moi, quand je prends un roman graphique, je choisis toujours avec soin. Un album que les images m'évoquent. Là, j'ai écouté la BO de 120 battements par minute et puis Moon Safari de R, parce que pour moi, c'est un album très aquatique. Est-ce que toi, tu écoutes de la musique quand tu travailles et
Bien sûr.
T'écoutais quoi en faisant Salon de beauté ?
Ben, on a trois qui sont dedans. De toute façon, il y a trois. Moi, c'est vrai que dans beaucoup de mes livres, il y a une petite bande sonore quand même. Et là... une notamment de la chanson de Fabienne Thibault, Le Monde est Stone, Starmania. Et où, là, c'est avec plus... en fait, j'ai vu une perf de drag queen, d'une drag queen qui s'appelle Siatic et que j'aime énormément. Et je lui ai volé ce moment avec son consentement, bien sûr. parce que je trouvais que ça faisait sens complètement dans la BD, donc j'ai mis celle-ci. Et après, je voulais aussi la fête, et je voulais... donc c'est là où arrive Soft Cell, Tainted Love dans la BD, que ça, pareil, pendant que je dessinais les scènes de fête, bon bah oui, j'écoutais cette chanson. Et une dernière qui est un petit caprice aussi de ma part, donc puisque j'ai mis moi Lolita de Alizé. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi vu que rien n'est nommé, en fait, ni l'épidémie, ni l'époque, ni tout ça, tout est dans des métaphores. Et du coup, qu'on puisse ce petit anachronisme où d'un coup
oui,
on a Alizé
dans les années 80,
en 2001,
ouais.
Je trouvais ça sympa. Et puis je trouvais que le texte s'y prêtait, puisque c'est un moment où ça parle beaucoup de la culpabilité que les personnes homosexuelles, en tout cas, peuvent parfois porter sur elles-mêmes. Et que elle, dans la chanson, c'est pas ma faute à moi, si j'entends tout autour de moi, machin, etc.
Retour voilà. En 2024, je vous propose pas d'écouter moi Lolita. Est-ce que vous connaissez Patchy Arsa ?
Pas du tout.
Vous allez nous dire si c'est une musique qu'il faut écouter en lisant votre BD, juste après ça.
Le blast c'est Patchy, c'est P-A-T-X-E-I. Easy, ça vient pas d'ici, pas de Star Academy. Jamais mon prénom dans les boutiques de souvenirs. À l'école, les garçons prenaient ma tête pour un ballon. Avec les filles, je prenais mon pied. Puis les mecs sont arrivés, une petite giclée dans leur caleçon siqué. Ok, rien de grave quand je rappe, c'est du drag pet, guitare sur la plage. Quand je drague, je débite des trucs vagues, du genre le club des 5 se tape, Martine à la plage. À moi, je sais pas trop pourquoi, sûrement un petit peu la faute de papa. Veux jamais voir mon mec, pourquoi lui-même sait pas. Mon plus grand trésor, c'est mes bijoux de famille. D'ailleurs, papa, maman, puisqu'il faut choisir un monde, je peux dire sans contrefaçon, je suis un mauvais fiston. Je me souviens très bien de ma première scène quand j'étais petit. J'étais devant les parents en pyjama sur du lorry. Je massacrais ma meilleure amie avec toutes mes meilleures amies.
assis dans le tromé, même plus la force de me lever. Je rate tous mes arrêts, galère à boucler ce que j'ai démarré. Si je commence à pomper, compte pas sur moi pour terminer. Je crois que je devrais partir, voir ailleurs si je suis. Désolé ma belle, mais je crois que ton chéri va devenir mon petit ami. C'est moi qui fais l'homme, moi qui fais la femme, moi qui mets le strike, c'est Parapachi. Parapachi, paraparapachi, parapachi, paraparapachi, parapachi, paraparapachi. Ok, 3 mètres en voiture, s'arrête pour me crier gros PD. Oh, attends, ça te gêne que j'aime mes garçons? Super, on va parler que de ça. Fugué en société, ne pas choper en soirée. Souvent se faire tabasser, personne n'a rien à branler. Deux PD dans un camion DPD. Des DPD fringues de daron déclassés. En anglais c'est jour de paix, dans un genre comme dans l'autre. Putain je prends mon pied, c'est pas du rap, me demande pas ce que je fais. Millions de couleurs LGBT, pixelisé, LGTV. Entre les lettres, fini de jongler, la passe à Patchy, le roi des alphabets. M'en bats les couilles, des bad girls à la riri, c'est pas mon délire. C'est quoi le nom de ton frère? Un petit sourire, main sur la cuisse et je le fais rom. Pop pop pom, suis les cons, qu'on s'entend. Moi les garçons j'passe leurs mains, et pas que. Tout mon nom sur la langue, et pas que. À utiliser en cas de danger, c'est pas que. Un homosexuel à moustache, je viens cocher quelques cases. Un jour je me ferai tabasser. Parapachi, paraparapachi, hey. Parapachi, paraparapachi. Parapachi, paraparapachi. Parapachi, paraparapachi. Parapachi, paraparapachi, hey. Parapachi, paraparapachi. Parapachi, paraparapachi. Parapachi, paraparapachi. Parapachi, paraparapachi. Bien, mais bien chanter c'est mieux. Vrai bon rappeur, ça j'en rappelle, ça va rappeler, sans déraper. Premier repas, je vais me déposer, ils me diront va te faire enculer, moi je leur dirai à bosser.
Parapachi, c'est donc le dernier single de Patchy Arsa. Vous écoutez Le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Quentin Zution, qui vient de publier Salon de Beauté aux éditions Dupuis. Antonella.
Oui, justement, je l'ai sous les yeux, cette magnifique BD. Et il est très clair que le bleu est prédominant dans Salon de Beauté. Ça m'a rappelé un autre roman graphique que j'adore, qui s'appelle In Waves de Ash Dungo, et qui parle aussi de la perte, qui parle du deuil. Le bleu, c'est la perte dans ce livre-là. Pour toi, Quentin Zution, c'est quoi le bleu comme couleur?
Waouh, c'est deep. Moi, c'est vrai, j'aime beaucoup traiter l'aquatique, de toute façon, dans plein de mes BD. Je pense que ça me permet aussi sur ma manière de dessiner les corps, de les faire aussi plus flottants. Quand on est immergé dans l'eau, bah c'est un peu comme on vole, quoi. Et puis, alors, très pragmatiquement aussi, j'adore dessiner l'eau. Voilà, j'ai pas d'autres réponses à ta question.
Donc le bleu, c'est l'eau. Est-ce que dans la vie, tu aimes l'eau? Est-ce
ouais,
que tu
carrément.
Aimes nager? Est-ce que...
J'aime bien. Je vais pas assez. Mais... Parce que bon, à Paris, voilà.
Pas de pression. Pas
la
de pression.
Mer n'est pas...
Il n'y a pas d'injonction au sport dans cette émission.
Ah oui, c'est vrai. Je pourrais aller dans la Seine maintenant. Dire, elle est douce. Elle est douce. Oh, elle est si douce.
Et par rapport à ton ouvrage, enfin, à l'ouvrage avec lequel je t'avais connue, avec Toutes les princesses meurent après minuit, ici, les couleurs sont très saturées. Elles sont très denses dans Salon de Beauté. Quand on est auteur de BD... c'est quel outil la couleur en fait? Ça nous offre quelle liberté?
Voilà, je pense que pour cet album-ci, en tout cas pour Salon de Beauté, la couleur là est notamment le scintillement des écailles, des poissons, donc avec des couleurs très vives sur ces poissons et ensuite sur les corps des hommes, donc ce orange et ce bleu. Ça m'a permis d'esthétiser. La maladie aussi. D'ailleurs, ça a été une grande réflexion où je me suis dit, ben, est-ce que c'est quelque chose à faire, ça, d'esthétiser ce qu'on a toujours regardé comme décrépitude ou comme synonyme de mort, tout ça. Est-ce que c'est pas aussi une manière pour moi de me léviter? Et je pense que si. De un, oui. C'est une manière pour moi de m'éviter. Mais après, je pense que j'ai aussi assez quand même confiance en mon trait et mon travail pour me dire que c'est pas, que c'est pas que ça. Ce n'est pas non plus qu'un prétexte. Ce n'est pas qu'un symptôme d'évitement, comme dirait ma psy. Une stratégie, voilà. C'était aussi parce que moi, ça s'appelle Salon de Beauté. Et au début, donc, il accueille les femmes pour les rendre belles. Et je voulais que quand d'un coup, y a plus que des hommes qui vont rentrer dans son salon, j'allais dire dans son aquarium en fait. Et en fait, on est dans la vision du personnage principal aussi, on est dans la vision de Jeshua, on est dans son délire aussi de Poiscaille, quoi, et de tout ça. Et donc, il voit ces hommes et qu'il a aimés, en tout cas un, qu'il a aimé profondément, et ensuite et ses amitiés, des amitiés aussi, qui se transforment en sirènes. Et je pense que c'est sa vision à lui, c'est lui et moi, on se lévite.
Ouais. Et tu disais avant la pause musicale que cette BD c'était aussi l'occasion de chialer un coup une dernière fois. Est-ce que c'est aussi sublimer en fait cette maladie, sublimer les personnes qui ont été malades? Est-ce que c'est une façon aussi de panser les plaies, de nous guérir aussi par le beau,
Oui, peut-être, mais tu vois, dire ça pour moi, c'est j'ai l'impression de déjà aller trop loin parce que moi je ne suis pas directement concerné par ça. Bien sûr, j'ai un héritage, etc. Mais moi je suis né, moi dans les années 90, j'étais minuscule. Je n'ai pas grandi. C'est arrivé après dans ma construction, effectivement, avec l'héritage que ça a apporté. Mais moi, donc il y avait déjà les trithérapies, etc. Quand moi j'ai commencé ma sexualité, en tout cas.
Et en même temps, vous racontez aussi que ça a été une sorte de vecteur d'angoisse. Vous parlez d'héritage, c'est ça.
Oui.
Vous le portez quand même si, effectivement, vous êtes né après, en tout cas, votre vie sexuelle commence après les premiers traitements, etc. Ça reste quand même très présent, ça reste une angoisse.
Bien sûr, moi, c'est vrai qu'ado, je me disais, ok. Mais parce que aussi, les représentations qu'on avait de tout ça étaient toujours, effectivement, dans dans la tristesse, dans le deuil, dans le corps qui se meurt, etc. Donc, forcément, on se dit, Ken avec un gars, c'est potentiellement se mettre une épée de Damoclès sur la tête, quoi. Et je pense que moi, je me suis, construit pas mal avec cette idée ancrée quelque part, et c'est pour ça que ce qui m'intéressait aussi dans cette BD, c'était l'aspect à la fois, bien sûr, érotique, mais aussi de mort. Et de toute façon, je pense que le sexe et la mort, c'est très lié. C'est les pulsions comme ça. Quand on a un orgasme, on appelle ça une petite mort, quoi. Donc, voilà. Je sais plus quel était le début de la question, mais...
C'est pas grave, moi non plus.
Eh ben, c'est super.
Je le trouve très joli, ce motif, en fait, qui est le stigmate de la maladie, et je vois que tu le portes sur tes ongles. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu pour les personnes qui ne te voient pas, qui n'ont pas la chance de te voir?
Oui, donc j'ai verni mes ongles avec du vernis aux couleurs de la BD, voilà, pour recréer ces petites écailles, tout ça. Je l'avais fait surtout, c'était pour la soirée de lancement à la base, voilà, qui était il y a une semaine et demie, bientôt deux semaines. Et puis, je me suis bien débrouillé, il tient bien. J'ai mis un top coat, on m'a appris.
Et ces couleurs, c'est donc le turquoise et le orange, c'est très très beau. J'aimerais qu'on me reparle aussi de Toutes les princesses meurent après minuit. C'était l'ouvrage qui avait reçu Le Fauve à Angoulême. Et c'était assez autobiographique, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? Ça parlait de quoi et pourquoi? C'était une autofiction, une autobiographie? Qu'est-ce qu'il y avait de toi dans ce livre?
C'est une autofiction, oui, parce que en plus, c'est un livre où l'histoire en deux phrases, c'est un petit garçon de 8 ans. Pendant une journée d'été, on est sur un huis clos et de lieux, et en plus, voilà, ça dure que 24 heures. Qui découvre en fait son homosexualité avec un copain de classe, donc à 7-8 ans, et puis son copain de classe, lui, il est un peu plus âgé, lui, parce qu'il va aller, il entre au collège l'année d'après, quoi. Donc drame, puisque lui grandit beaucoup trop vite. Et donc ça racontait ça, et en même temps, c'était en toile de fond avec l'histoire de ses parents. Enfin, du divorce des parents et de sa sœur adolescente, etc. Donc, ça racontait ça. Qu'est-ce que tu me disais?
Et je crois qu'il a une astuce, ce petit garçon, pour se rapprocher.
Tout à fait. Mais raconte, tu vois. C'est... Non, vous savez, il n'y a rien de pire que de demander aux auteurs même de pitcher leur livre. On est très nuls pour faire ça.
Si tu veux, je raconte.
On est insupportables. Non, mais c'est bon, j'y vais. T'inquiète pas. Non, c'était pas pour te...
Et je m'en fais quand t'as c'est bon.
J'avais effectivement une technique quand j'étais petit pour arriver à mes fins, quand j'avais mon petit crush là. Donc je me déguisais quand on jouait dehors, je me déguisais en princesse, puis je me faisais semblant de mourir. Et parce que comme ça, vu que lui c'était le chevalier servant, et ben en fait pour qu'on continue à jouer, il était obligé de m'embrasser, puisque c'est comme ça qu'on réveille une princesse morte. C'est une technique qui marchait du feu de Dieu, en tout cas avec avec lui. Je n'ai pas essayé non plus avec 1000 personnes. Et c'était un peu, bon, voilà, j'étais un petit manipulateur, mais c'était adorable quand on a 8 ans.
Oui, bien sûr.
Le consentement, tout ça, bon, j'étais moins au fait à 8 ans. Et voilà, ça m'intéressait de bosser là-dessus parce que je trouvais que ça disait beaucoup de... Enfin, que cette anecdote racontait beaucoup aussi de la perception. C'est-à-dire que moi, en tant que petit garçon de 8 ans, je me disais que donc pour réussir à embrasser ce petit garçon, il fallait que je passe par le travestissement pour en fait avoir l'impression de re-rentrer dans une norme. Alors qu'au final, je la déglinguais, la norme, puisque je passais par, par un t-shirt sur la tête et puis, en plus, puis je me mettais une serviette pour faire sirène et compagnie. Je l'attachais avec de la corde, je l'avais attaché lui aussi. Enfin, bon, putain.
Ah, wow.
C'était très dangereux, moi. Il fallait pas jouer avec moi. J'étais beaucoup trop intense.
Bon, je continuerai de te poser des questions qui t'embêtent juste après la pause musicale.
Non, c'est pas la pause musicale.
Non,
en
pardon,
fait.
C'est le pardon.
Eh bien, non. En tout cas, à 19h26, on est toujours avec Quentin Zution dans le lobby. Pas de pause musicale tout de suite sur Radio Campus Paris, mais on retrouve Chat. Ça va, Chat ?
Bah ouais.
Mais allez. En fait, on ne retrouve pas Chat exactement. Je devrais plutôt dire Père Castagne. Alors sortez vos pancartes et préparez-vous à taper dans les mains.
Allez, et 3, 2, 1, Père Castagne, raconte-nous une histoire. Père Castagne, allez, on y va. Ouais. Bon, ça fait du bien de voir autant d'enthousiasme après 2 mois sans grabuge quand même. Et bonjour les enfants petits cuiros et autres gauchias de salon. Oh, c'est trop mignon. La rentrée militante a bel et bien sonné. On s'est retrouvés dans les rues ce week-end et quand même, c'est pas chouette de revoir les copaines, hein. Et oui, parce que bon, entre les grandes vacances et la trêve olympique, bah, on aurait presque oublié que bah, on n'est pas content.
Ah bon, on n'est pas content?
Bah non, on n'est pas content. Ah. Je suis chonchon, Colin. Je suis chonchon et je ne suis pas le seul. Avec la clôture des Paralympiques et la nomination du tout nouveau Premier ministre, enfin nouveau, hein, voilà. Comment ne pas avoir le seum? Et puis, on fait genre que le monde s'est arrêté entre juillet et août, mais entre le génocide en Palestine, au Congo, la répression coloniale en Kanaky, mais aussi ici, hein, pendant les JO et les expulsions de SWAT, sans parler de la pluie. La pluie qui a juste gâché toutes nos sorties de terrasse. Non, vraiment. Été 2024, mauvaise récolte, hein, mauvais millésime. Voilà, la rentrée s'annonce amère, pire que le Beaujolais. Pourtant, on a eu une petite éclaircie pendant la cérémonie d'ouverture des JO, mais ça a vite tourné au vinaigre et les fachos sont sortis de leur trou en hurlant. Non. Heureusement, l'ouverture des Paralympiques avec ses portraits misérabilistes en noir et blanc les a un petit peu calmés. Oh oui, les pauvres gens handicapés que l'on peut plaindre tout en s'auto-congratulant. On est quand même bien sympa de les trouver héroïques et de les inclure dans la grande fête de la méritocratie. En attendant, Paris reste inaccessible pour beaucoup d'Adelfandi, mais j'avoue, c'est moins vendeur comme concept. Alors, on attendait un petit bout d'arc-en-ciel pendant la clôture des Paralympiques avec Kiddy Smile. Cet outfit incroyable en mode musclor BDSM, slay, slay, je le veux. Mais là encore, c'était trop pour France TV qui a vite, vite basculé sur une vue plongeante sur le Stade de France, qui ressemble à un gros anus d'ailleurs au passage, hein, vraiment.
Ah bon.
Donc, un peu raté. En tout cas, moi, ça m'a rappelé tous ces films où la caméra se décale pour filmer la fenêtre à chaque fois qu'il y a un couple gay qui s'embrasse. Seigneur, non, cachez ces queers que je ne saurais voir.
Bon, dis-moi, Père Castagne, il y a quand même un peu d'espoir pour cette rentrée.
Eh ben, c'est qu'on n'est pas sorti des ronces, hein, figure-toi. Vu l'antiquité que Macron nous a sorti des archives, franchement, Barnier, c'est un peu comme Laguenau qui veut pas te lâcher. En 93, il est dans le gouvernement Balladur, hein, vraiment. 95, Juppé et Chirac le prennent dans leur équipe. En 2004, c'est Raffarin, le gouvernement qui le sort des catacombes et qui le passe à Fillon, gouvernement Sarkozy, TMTC. Et maintenant, c'est Macron qui le sort du placard. Et dire qu'on a failli avoir une première ministre de la jaquette.
Bon, alors on fait quoi ?
Eh ben, comme face à tout IST, il faut agir. Et ça tombe bien, parce que des manifs s'organisent. Alors oui, après les gilets jaunes et les mobilisations contre la réforme des retraites, ça fait un petit peu peur d'aller en manif, mais t'inquiète, Père Castagne est là.
Bon.
Allez, en manif, ça se prépare. Tu t'habilles confort, tu évites le maquillage et tu mets du sérum fi dans ton sac. Un petit foulard à une bouteille d'eau, c'est pas du luxe non plus. Surtout en cas de lacrymo. Alors je sais, ça fait peur les gazages. Mais si tu as ces deux réflexes, ça se passe déjà un petit peu mieux. 1. On ne court pas. Si tu cours, tu crées un mouvement de foule et c'est toi qui devient le danger pour tes camarades. Puis de toute façon, tu vois rien, franchement ça sert à rien. 2. Ne touche pas ton visage avec tes mains pleines de doigts. Oui, ça pique, oui, tu pleures, mais ça va passer, t'inquiète. Sors de la foule, nettoie tes yeux au sérum fi et lave-toi les mains. Pour limiter les effets, tu peux porter un foulard imbibé d'eau ou de Mahalox mélangé dans une bouteille d'eau. Tu mets ça sur ton nez et ta bouche, ça va déjà un petit peu mieux. Dans tous les cas, ce qui marche le mieux, c'est d'être solidaire. On laisse pas les copains sur le carreau, on partage les pipettes de sérum, bref, on est ensemble.
Des conseils en cas de garde à vue, Père Castagne.
Alors là, c'est simple. Oui, oui, très simple. Avant d'aller en manif, note le numéro et le barreau d'un avocat ou d'une avocate de service. Tu peux trouver ces infos sur la page Insta de la Legal Team et de la Legal Team antiraciste. Une fois arrêté, ne parle pas, ne dis rien. Tout ce que tu peux potentiellement dire, tout ce que tu peux dire, ça peut t'incriminer. Alors le réflexe, c'est « je n'ai rien à déclarer ». En boucle. Peu importe les promesses, les menaces, les « je te promets bébé, je te libère ». Ne dis rien d'autre. Et rappelle-toi que tu as des droits. Oui, oui, même derrière les barreaux, tu as des droits. Le premier, celui de passer un appel, notamment de contacter un avocat ou un proche. Le deuxième, eh ben, tu as le droit de voir un médecin. Et garde en tête, cela dit, que il ou elle n'est pas ton allié. Et à elle non plus, tu n'as rien à déclarer. Mais rassure-toi, la plupart du temps, une manif, ça se passe très calmement. Les images que tu as vues au journal de 20h, bah, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Hein. Alors chill et viens manifester. Et puis ça tombe bien parce qu'il y en a une ce vendredi 13 à 16h, place de la République, organisée par la Marche des Solidarités. On t'attend. Et si tu te sens pas légitime ou t'as peur d'être seule, et bah, tu peux rejoindre des collectifs, des assos, des syndicats. Yel, ont l'habitude et tu seras pas seule. Et puis qui sait, peut-être même que tu rencontreras ton prochain date. Oh bah quoi, c'est pas parce qu'on lutte contre les fachos qu'il faut arrêter de vivre, hein. Non mais, allez les apprentis révolutionnaires, on peint ses plus belles pancartes et on sort dans les rues pour montrer que non, on n'est pas content, oui on est chonchon et on lâche pas l'affaire. Allez, à tout vite pour battre le pavé.
Merci beaucoup Père Castagne, merci beaucoup Chat pour cette chronique, ce petit mode d'emploi. On est toujours avec Quentin Zution, Salon de beauté, c'est un livre qui est imprégné de l'histoire du VIH SIDA, de l'histoire de la répression de l'homosexualité, et justement notre Premier ministre n'avait visiblement pas de problème avec cette répression, puisque comme ça a été pas mal rappelé ces derniers jours et tout à l'heure en début d'émission, il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Comment est-ce que vous avez réagi à cette actualité, Quentin Zution ?
Bah mal.
Ah bon ?
Je dise, oui, bah pas ouf quoi. Et en plus, là, il n'y a même pas que ça. Là. Enfin, bon, déjà, il nous a fait traîner pendant beaucoup trop longtemps. Moi, je suis resté à Paris tout l'été, donc c'était long.
Oh.
C'était long. Quoi que, bon, après la période JO, en vrai, c'est sympa. Hein. Bah, ils ont mis tout ce qu'on n'aime pas voir, ils l'ont mis ailleurs. Donc, bah, du coup, ça marche. En vrai,
quand on reste confiné rive droite et ça va finalement.
C'est ça. Et après, non, mais là, on a une rentrée un petit peu, pas simple. Mmh. Entre ça, le procès Mazan et compagnie, c'est pas facile, Twitter, quoi. Bon, Twitter, c'est rarement facile.
Mais... on évite Twitter, autre conseil. On revient à Salon de beauté, Antonella.
Oui, et on rembobine avant même l'époque où on croyait qu'on allait avoir un Premier ministre de gauche ou une Première ministre de gauche. On revient encore plus loin, on retourne en enfance. J'ai entendu dans une de tes interviews, Quentin, qu'on disait de toi quand t'étais enfant que t'étais sage comme une image, qu'il n'y avait rien qui dépassait, que t'étais un enfant modèle. Et tu disais dans cette interview...
Vous avez lu ça, vous
J'ai écouté ça dans un podcast.
D'accord.
Et tu disais que tu aimerais que ça déborde plus, en plus, en fait, dans tes prochains livres. Est-ce que dans Salon de beauté, tu trouves que ça déborde plus ? Est-ce que t'as l'impression...
Ça a commencé, ouais, je pense, à déborder un peu. Mais parce que moi, dans ma vie personnelle, là, j'ai l'impression que je déborde plus aussi. Donc, ça se ressent forcément dans mon travail. Ça a été, bah, comme je disais, cette BD, c'est la BD qui m'a pris le plus de temps et qui m'a coûté le plus de sous en thérapie.
C'est vrai que votre psy est très présente dans cet entretien. Elle est un peu avec
c'est
nous.
Vrai, mais elle est présente beaucoup trop partout. Mais oui, j'ai mis 2 ans à le faire, alors que d'habitude, c'est vrai que je sors un livre par an, à peu près. C'était mon rythme de croisière. Et là, oui, bah, pour s'autoriser à déborder, je pense qu'il faut, il fallait un peu plus de temps. Et, mais parce que ça me rassurait aussi d'être l'enfant sage, hein, de toute façon, même petit. Moi, j'étais ravi et contenté à partir du moment où je rendais fiers mes parents. Mais je pense que là, c'est récemment où j'apprends à me rendre fier juste pour moi-même. Donc c'est un long travail, ça.
Et en quoi ça déborde dans Salon de beauté ?
C'est plus à vif, je pense, parfois. Il y a moins de mensonges. Dans toutes les princesses, il y a plein de mensonges. Il y a plein de trucs qui ne se sont pas du tout passées comme ça. Je distribue des bons et des mauvais points dans toutes les princesses, mais qui ne viennent que de moi. Enfin, qui sont ma propre projection.
Mais tu as bien raison, c'est ton livre, en fait.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais c'est aussi une vision très... voilà, que j'ai voulu quand même garder un peu manichéenne. Et parce que c'était aussi... c'était un livre qui s'adresse aussi à plus jeunes. Même si je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut que des trucs très manichéens pour les enfants, etc. Mais c'était moi, dans ma tête, c'était encore pour moi très manichéen. Tout ça, c'est mes relations à mes parents, mes relations à mon homosexualité, etc. Moi, j'ai grandi un peu avec une image, en tout cas, de la masculinité, un peu où je la désire et en même temps, elle m'effraie. Enfin, bon, c'est le lot de plein de PD, hein, de toute façon. là, j'invente pas grand-chose, hein. Mais ça a été long de me dire pourquoi elle m'effraie tant aussi et pourquoi et je m'interdisais de déborder parce qu'en fait moi ma propre masculinité je la renfermais beaucoup parce qu'elle me faisait peur alors que là alors je vais pas devenir un masque for masque en deux secondes hein, ça c'est clair et c'est pas le but du tout mais en tout cas je me sens plus apaisé avec aussi le masculin que j'ai en moi et qui me et qui, là, ouais, prend un peu de place, commence à prendre pas mal, et déborde pas mal, ouais.
Et dans Toutes les princesses meurent après minuit, en fait, c'est un livre qui avait été sélectionné à Angoulême, qui était aussi dans les pépites du Salon du Livre de Montreuil. Est-ce que tu penses à ton public, à tes lectrices, quand tu crées ?
Pour Toutes les princesses, pas tellement, parce que... Enfin, je l'ai pas fait en me disant « ça sera un livre jeunesse ». Il a plus été récupéré comme ça... Et je pense parce que justement, il y avait ce côté où moi-même, je m'étais remis dans la peau de l'enfant, quoi, vraiment. Et où j'essayais pas de faire genre adulte qui essaie de parler à des enfants. Mais enfin. J'ai oublié ta question.
Est-ce que tu penses à ton public
quand
tu crées ?
Ah oui, pour Salon de Beauté, non plus. Parce que. Je me suis dit quand même, si là, je raconte des bobards. Je me suis dit, là, je suis content de faire. Un livre pour les pédales. Même si tout le monde peut se l'approprier et plein de gens lisent cette histoire, il n'y a pas de souci. Mais là, j'étais content. C'est la première fois que, en tout cas, que moi-même, je pense que j'assumais de faire un truc pour les pédales.
Bah justement, cette BD, c'est aussi l'histoire d'une communauté, d'une famille qui se choisit, qui se recompose dans un monde où le mot communautaire est souvent utilisé comme un gros mot. Pourquoi c'est important de parler de la communauté ? C'est quoi la communauté pour toi ?
C'est alors ça, c'est oui, les mots de Yeshua, en tout cas quand il parle de famille, de ses sœurs, etc. Moi, je n'ai pas encore accès trop à ça. Enfin, je parle pas de famille choisie. Je parle, effectivement, c'est mes amis, c'est mes, tout ça. Mais peut-être parce que ma propre famille est encore trop... j'ai encore pas assez coupé tout ça. Ou... Et du coup, c'est... Mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a du... En fait, je voulais surtout montrer de la joie et de l'amour, peu importe quelle forme ça prend et quel mot tu mets dessus. Ça, en vrai, ça m'intéresse pas tant. Mais par contre, je comprends pour plein de gens en quoi ça fait sens. Moi, j'ai toujours eu... Et j'ai l'impression aussi, et c'est peut-être parce que là, je ne déborde peut-être pas encore assez, mais que je me sens toujours en décalage, mais n'importe où, que ce soit avec des hétéros, que ce soit avec des queers... que ce soit avec des plus âgés, avec des plus jeunes, enfin de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'aussi, ça fait ma... quelque part, ça fait moi. Et j'en ai beaucoup souffert en me disant... Parce que justement, tu vois, j'ai plein de potes qui me disent « Ah ben ça y est, là, on est tous ensemble, on est tous queer, on est tous machin, on est tous... c'est génial, c'est ma nouvelle famille et tout. » Et moi, j'étais là, mais moi, j'ai jamais ressenti ça non plus. J'ai pas cette euphorie d'un coup. Alors peut-être parce que je suis quelqu'un de très méfiant aussi, ou de plus timide, ou de plus anxieux, ou de plus ça, mais j'avais l'impression que les autres aussi étaient méga anxieux. Et du coup, là, j'apprends aussi à me dire, mais en fait, ce décalage, peut-être que j'ai à appartenir à rien, et que c'est pas si grave non plus, que l'aspect... Et j'arrive à faire bloc, en fait, je fais bloc aussi, je fais communauté dans les moments où, effectivement, bah, par exemple... dont nous parlait Chat, des manifs, etc. Tu vois, j'arrive à être présent et j'ai envie d'être présent. Mais je veux conserver, pour le moment, en tout cas, je sais pas, ce petit... j'aime ce pas de côté. Parce que des fois, je trouve que on est tout aussi con que tout le monde. Hein.
Et bah, c'est vrai que tu parlais de la joie en fait, qui se crée dans Salon de Beauté par la communauté. C'est aussi une communauté qui se crée dans la douleur. Est-ce que toi, cette ambivalence, tu la ressens aussi, le fait d'être soudée, ben, comme disait Chaf, hein, par ce qui nous arrive en ce moment? Mais il y a aussi des moments, je sais pas, dans la cérémonie d'ouverture, il y avait aussi le drag, il y avait la musique.
Oui.
Et quand est-ce que tu trouves, toi, de la joie? Quand est-ce que la communauté, elle signifie joie aussi pour toi?
Ben, c'est effectivement souvent pendant des moments tristes aussi que la joie se révèle. Moi, j'avais été un peu bénévole pour SolSid, Solidarité Sida. Mm. Et pendant les solidaises, etc. Et c'est vrai que c'est des moments finalement hyper joyeux, enfin de cohésion, où en fait, mais quand on chiale tous ensemble, qu'est-ce que c'est beau aussi. Puis après, on rit, on boit un verre et on fait n'importe quoi et on s'embrasse dans tous les sens. Et ouais, ça, je trouve ça beau. Mais de toute façon, je pense que c'est parce que on détresse mieux dans la détresse, justement. Enfin, on arrive mieux à se comprendre et à se rassembler. Bah, les gens, de toute façon, les gens trop heureux, c'est insupportable.
C'est parfait, on va finir là-dessus. Bon, bah, voilà. En tout cas, Salon de Beauté, c'est paru aux éditions Dupuis. C'est chaudement recommandé par le lobby. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies.
Tout à fait.
Vous restez avec nous encore jusqu'à 20h.
Ouais.
Et dans un instant, on va parler de Queer sur l'herbe, une charmante initiative qui fête ses 3 ans le week-end prochain.
I'll never understand. I'll never be true. I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by. 'Cause you, I would die for you. And darling, if you want me to, I would die for you. And I'm not your lover. I'm not your friend. I am something that you'll never comprehend. No need to worry, no need to cry. I'm your messiah and you're the reason why. 'Cause you, well, I wouldn't die for you. And darling, if you want me to, I wouldn't die for you. 'Cause you, I'm love. See, all I really need is to know that you believe. Well, I wouldn't die for you. Darling, if you want me to, and I wouldn't die for you.
I Will Die For You, c'est le retour de la chanteuse trans britannique Lauren Oder avec ce titre magnifique dans cette émission réalisée par Suzanne Cinca.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Et on accueille notre deuxième invitée de la soirée. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir.
Vous êtes performeuse, je peux le dire comme ça?
Oui.
Oui, voilà. Et si c'est une étiquette qui vous plaît, c'est parfait. Et vous êtes en tout cas une des organisatrices et même la host des événements Queer sur l'herbe, donc des après-midi au but de Chaumont avec des artistes queer qui performent en plein air. J'ai bien résumé?
Exactement, voilà, c'est un très bon résumé.
On commence par des petites questions pratiques. Est-ce que c'est gratuit?
Tout à fait, complètement ça. Gratuit, en plein air, accessible à tous.
Voilà, donc accessible pour les personnes à mobilité réduite également.
Oui, il y a un accès, c'est marqué sur l'affiche par l'accès, enfin je sais plus, mais c'est marqué sur, c'est en bas du parc des Buttes Chaumont, donc okay. C'est facilement accessible.
Il y a les coordonnées GPS quelque part.
Tout à fait, exactement, sur l'Instagram.
Vous comment est-ce qu'on vous retrouve dans le labyrinthe des Buttes Chaumont, parce que moi je m'y perds une
oui,
fois sur deux.
Les gens galèrent quand même à trouver, mais il y a un plan sur notre page Instagram, il y a l'affiche qui est très belle, et ensuite il y a un plan avec vraiment le spot qui est indiqué et un lien Google où on peut vraiment retrouver, c'est pas loin du pavillon Puebla, c'est en bas.
Parfait.
Du début de Chaumont.
Voilà. Qu'est-ce que c'est bien fait. Vous nous donnez rendez-vous de 14h à 18h, je crois qu'il n'y a pas 4 heures de spectacle, c'est de, les shows sont de 15 à 17.
Tout à fait.
Et entre-temps, on peut chiller, venir pique-niquer, on fait ce qu'on veut quoi.
Exactement, voilà le but, c'est justement d'être un peu en mode chill, en extérieur, avec tout type de personnes, donc il y a des personnes queer qui viennent, mais il y a également des familles, des enfants, des personnes hétéros qui étaient juste là en train de pique-niquer sans savoir qu'il y allait avoir un spectacle, et du coup nous on débarque en disant bon vous pouvez rester si vous voulez, et ils restent, et généralement ils apprécient beaucoup. Donc voilà, c'est très familial, et en effet entre 14h et 15h c'est un peu pique-nique chill. De 15h à 17h, spectacle avec deux parties, une petite entracte, ou un entracte, je ne sais plus comment on dit, et une tombola également. Enfin,
oui,
voilà,
j'allais vous demander, c'est quoi cette tombola? Il y a quoi à gagner notamment?
Eh bien, les artistes divers et variés ramènent un peu des trucs dont ils ont peut-être envie de se débarrasser, ou des créations personnelles. Non, il y a vraiment de tout. Des fois, il y a vraiment genre des petits lots comme ça, mais des fois, il y a des gens qui donnent des places pour leur spectacle vraiment, ou des œuvres qui elles ont créées vraiment en prenant du temps. Donc, il y a vraiment des lots divers et variés, vraiment des fois assez impressionnants. Donc voilà, et c'est hyper bon enfant et c'est très cool. Donc
on va pouvoir parler de cette ambiance et puis de la programmation aussi de la prochaine édition qui aura donc lieu le 14 septembre, 14h-18h au but de Chaumont. Avant ça, ce qui m'intrigue beaucoup dans cette initiative, c'est le fait de faire un événement en pleine journée sans vente d'alcool. C'est aussi important de proposer des événements queer qui soient pas forcément ni nocturnes ni festifs.
Eh bien tout à fait, parce que le drag n'est pas cantonné que à la nuit, à la fête. Et justement, il y a pas mal de personnes. Là aussi, le côté accessible, gratuit, fait qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas envie d'aller dans des bars, dans des clubs, parce que ça peut être bruyant et cher. Et en fait, là, c'est rendre le drag et le queer en fait, accessible à tous, et aussi l'étendre à pas que la communauté queer, parce que souvent, dans des lieux très précis et en non-mixité, c'est aussi très très bien, mais justement, on s'adresse pas forcément à un autre public. Et là, en fait, d'aller rendre ça en plein air, qui... justement des personnes hétéros peuvent découvrir un peu le drag et justement c'est un peu ce désir là d'investir l'espace public, notamment on en parlait un peu vu la période politique actuelle et ça fait 3 ans qu'on existe, mais l'extrême droite ne cesse.
Je pensais que vous parliez de la communauté queer, j'étais genre 3 ans quand même.
Queer, l'extrême droite ne cesse d'augmenter, et là on voit avec le premier ministre validé par le RN etc, c'est un peu la panique. Même là, genre moi j'ai eu les queer sur l'herbe de cet été à deux doigts de se prendre le fascisme dans la gueule. On était un peu là en mode ok c'est chaud, mais justement on réinvestit aussi ce truc de on est dans l'espace public, nos existences sont légitimes, on a du pouvoir et on est là. En fait, on est drag, on est fier, on est queer, et en fait le show il y a de tout. En fait, il y a de l'humour, c'est pluridisciplinaire. Il y a des drag queer, des drag king, des drag queen, il y a des créatures, il y a des gens qui font du cirque, du stand-up, du chant, de la danse. Et en fait, ça montre justement à tout le monde que les drags ne sont pas cette vilaine panique morale qu'on peut rendre en mode genre on va mal influencer vos enfants. Ça montre que c'est quelque chose de festif, de joyeux, de politique, parce qu'on a aussi pas mal de j'ai pas le temps d'en parler à fond, etc. Mais le drag a politisé très... juste pop et puis basta, ça m'intéresse pas. Et j'ai envie d'avoir des performances. C'est aussi pour ça que j'invite vraiment des artistes extrêmement pluridisciplinaires et avec plein d'identités différentes, qui ont des messages à raconter, qui parlent d'eux, qui parlent de politique, qui parlent de choses très importantes et qui vont toucher globalement les gens. Et en fait, nous, on a souvent des très bons retours de waouh, en fait, on a passé un moment qui était très chill, très cool, mais en même temps, on a pu réfléchir sur certaines choses, etc. Et c'est pour ça, moi, cette année, j'ai pas ouvert que à des artistes, ça fait 2 ans qu'on existe, mais cette année, j'ai aussi invité des personnes du milieu associatif, du milieu militant, pour aussi nous parler de leurs activités et en fait de le mêler au spectacle. Donc, c'est pas genre une partie militante puis une partie spectacle, c'est vraiment les performances performances artistiques et les moments militants sont mélangés. Et on a déjà eu des personnes de la MIF, de la Pride des banlieues, on avait Violence en milieu queer qui était venu parler, là on a les Invertis.
Au début de l'été. Ouais.
Tout à fait. On a les Invertis qui viennent parler samedi, qui sont également à la fête de l'UMA ce week-end, donc collectif transpédéguine marxiste révolutionnaire qui est très investi dans les luttes, dans les manifs notamment, etc. Donc c'est aussi ça, c'est de vraiment réinvestir le côté politique de l'art et la lutte contre le fascisme qui est toujours là. C'est pas parce qu'on l'a évité, et d'ailleurs on se le reprend dans la gueule avec Barnier et compagnie.
C'est pas fini. Vous parliez tout à l'heure de cette importance d'occuper l'espace public, etc. Je me demandais si est-ce qu'il y a des appréhensions aussi, des risques que ça peut représenter, et est-ce qu'il peut y avoir aussi est-ce que c'est déjà arrivé que le spectacle soit interrompu par un public extérieur par exemple,
Alors justement au début on s'était dit il y a peut-être des risques, et en fait c'est tellement bon enfant, puis en fait justement dans le par début de chemin on est un peu cerclé par des arbres, donc il y a un peu ce côté aussi, ça nous crée notre petite scène à nous, donc il y a pas mal de gens, des badauds qui passent dans le chemin juste derrière, et des fois ils s'arrêtent et ils regardent, mais il n'y a jamais de violence, quoi. On voit juste des gens, des fois, qui lèvent les yeux au ciel et qui s'en vont, mais basta. Mais en fait, non, justement, il y a souvent des gens curieux qui, en fait, restent et qui, en fait, voient que c'est juste un show et c'est trop cool. Donc, non, on n'a jamais eu de violence. Il y a eu un coup, quand la Pride des banlieues est venue parler, c'était le 8 juin, donc la veille des européennes. On était en trêve électorale. Mais du coup, la Pride des banlieues parlait de la Pride des banlieues et quand même du contexte politique actuel. Et il y a une dame avec son chien un peu vieille qui est venue vers un peu gueuler en mode genre, mais vous ne pouvez pas faire de politique, c'est insupportable, vous n'avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites là? J'étais là, en plus, il y avait la dame de la mairie du 19e qui soutient l'événement. Donc, merci à la mairie de Paris, qui était là pour parler aussi des activités pour la lutte LGBT de la mairie de Paris, qui était là en mode, mais genre, partez. Puis moi, j'avais l'autorisation de la mairie dans la main, donc en fait, elle s'est juste foutue la honte devant 100 personnes, et puis basta. Mais voilà, avec le fascisme qui monte, c'est vrai que des fois, on se dit genre, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais on a
vous
une équipe d'organisation.
Vous êtes d'autant plus important aussi, c'est toujours cette petite ambivalence-là.
On a le public, on a une équipe d'orga, il y a genre toujours 15 artistes, donc en fait, personne vient nous faire chier, puisqu'on est juste trop slay.
Vous nous donnez un petit peu un aperçu de la programmation de ce samedi, et aussi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous sélectionnez ces artistes qui participent à quoi sur
Eh bien oui, c'est moi un peu qui seul galère, parce que on est né il y a 3 ans, j'ai créé cet événement avec 3 amis qui étaient donc Kalos Éphémère qui est une drag queen, Twinkie Peds et Ambroise qui sont des drag kings. Et ensuite l'année d'après je me suis retrouvé un peu seul, donc j'organisais un peu ça seul, et puis là je me retrouve un peu seul encore cette année avec quand même des gens qui m'aident pour tout ce qui est sono, technique, logistique, et quelqu'un qui fait l'affiche est absolument exceptionnelle. Allez voir sur je remercie énormément cette personne, et d'ailleurs employez-le, payez-le, parce qu'il fait vraiment des affiches incroyables aussi pour la queer food, et en fait c'est moi qui sélectionne un peu des artistes, mais vu que ça fonctionne bien, il y a plein de gens qui viennent dans mes DM, et en fait j'ai un peu un tableau avec juste des gens que j'ai envie de booker. Il y a des gens qui me disent est-ce que je peux, et en fait justement il y a des artistes confirmés, mais il y a aussi pas mal de nouvelles personnes qui ont envie de juste
tester. Il y a un petit côté tremplin un peu.
Il y a un côté tremplin, moi il y a plein de gens qui ont fait leur toute première scène ever à Queer sur l'herbe et qui maintenant ont leur propre show, et qui en fait il y a ce côté aussi qui est déstressant, parce que des fois dans des clubs et dans des bars, il y a un peu ce côté genre qui peut être assez anxiogène, et en fait là on est chill, il est 15h, on est à l'extérieur dans l'herbe, et il y a vraiment ce côté où c'est tellement bon enfant que les gens juste kiffent, et c'est ça qui est hyper agréable. Donc en fait je sélectionne...
Il y a moins ce truc de j'espère que cet artiste va me faire rire parce que j'ai payé ma place j'ai réservé ma soirée.
Là c'est hyper chill, et vu que c'est pluridisciplinaire et qu'il y a de tout, j'essaie d'équilibrer, justement je mets une petite perf un peu joyeuse, une perf triste, un truc de stand-up, un truc de danse, un truc de cirque, et en fait chaque perf est tellement différente que ça crée vraiment une sorte d'énorme mixité qui est hyper joyeuse, et ça fait hyper plaisir. Et là moi justement vu que c'est en fait depuis je vais me faire à chaque fois une thématique, en mai c'était contre les violences LGBT-phobes, en juin c'était la Pride, en juillet c'était genre JO/fierté nationale queer pour se réapproprier le 14 juillet juste de manière un peu patriotique et tout. Et là c'est l'édition anniversaire parce que c'est les 3 ans plus un peu mégalomanie de moi-même, c'est mes 50 drag et mes 30 ans en tant que personne civile, et du coup j'avais juste envie de faire un événement qui me fait genre plaisir en invitant des potes et tout. Donc là j'ai un peu
l'édition anniversaire au pluriel,
exactement, et c'est un peu un line-up XXL où justement on aura de la natation synchronie drag avec 5 potes drag king qui ont une sorte de performance de 20 minutes où ils font de la natation synchronisée en drag. Ça fait genre des mois que j'entends parler de cette performance. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je pense que ça va être juste épique. Voilà. Ensuite, j'ai 3 personnes amies.
Mais ils vont se baigner ou c'est
Non, je pense qu'ils vont air nager. Je ne sais pas. Justement, je ne sais pas trop. Mais j'ai 3 devoirs. Exactement. Si tu adores l'eau, tout à fait. C'est clair. Ça va être tellement doux. J'ai 3 amis qui viennent de la Queerale, parce que j'étais également à la Queerale à l'époque, qui viennent chanter une chanson que j'ai déjà vue performer. Enfin, je vous spoil pas, mais c'est juste absolument magnifique. Il y a du chant live, il y a une personne aussi de la Queerale, un ami. Il y a des personnes du collectif Fierce Faces, qui est un collectif de club kids très créatures, etc., qui viendront un peu. Mais justement, c'est un collectif trans, non-binaires, écologistes, etc. Donc qui viendront faire des trucs en lien avec la nature. Ça va être absolument incroyable. Il y a Rico Tour qui brille, qui est un drag king. Enfin, j'oublie sans doute plein de gens, mais voilà, ça va être hyper varié. Et en invité, donc on a Les Invertis, comme je disais, il y a Queer Pantin, qui est une association de queer à Pantin. Ouais. Vu que je vis à Pantin, j'ai déménagé, donc j'invite un peu les gens de Pantin. Et... Fierce Faces, voilà.
J'ai failli. Ça va être donc les 3 ans de Queer sur l'herbe. Ce serait quoi un peu vos meilleurs souvenirs? J'ose pas vous demander votre meilleur souvenir, mais...
C'est compliqué, ouais. Bah, je sais que du coup, il y avait ce truc, justement, quand les gens disent « Ah mon Dieu, mais les enfants, est-ce que ça va les déranger ou quoi ?» Il y avait un coup, une performance que j'ai fait avec Aiden Lavidange, drag king parisien de l'iconique famille Lavidange. Et en fait, on avait un peu improvisé un truc. Il était là, moi, genre, oh, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on a qu'à dire qu'on est sur un bateau. Et en fait, il avait demandé au public, genre, bon, dites ce qu'on fait. En fait, ils ont dit, ok, c'est une histoire d'amour, je sais pas quoi. Et en fait, on a dit, bon, on a besoin de vous pour faire le décor. Et en fait, les enfants sont venus faire les vagues derrière nous. Et en fait, ils étaient à fond. Et en fait, ils sont venus, genre, on a une vidéo justement où on est en train de se pécho un peu sur une musique romantique. Et en fait, il y a les enfants qui font la mer et il y a quelqu'un qui fait le capitaine du bateau. Et en fait, tout le monde était juste à fond. Et les enfants sont juste là en train de kiffer. Et genre, après, ils participent à la tombola en levant la main et tout. Donc, il y a vraiment ce côté. Les gens sont juste toujours hyper mimes. Et voilà, les enfants, quand, après, ils viennent te parler. En fait, tu vois qu'ils ont juste pas de filtre et qu'ils s'en fichent de ton genre, ils s'en fichent de tout ce qu'on peut leur dire et tout. Donc, c'est ce genre de moment qui est hyper fort. Et on a vraiment des performances qui sont des fois hyper vénères, hyper politiques. Parce que c'est, aussi, c'est pas parce qu'on est en extérieur qu'on va édulcorer nos messages. Mm-hmm. Moi, en plus, de quoi en drague, je casse quand même mon nom. Je m'appelle Prince Esjan. Et j'ai un drag très créature, assez non-binaire, vénère. J'ai la rage contre le système en place, parce qu'il y a mille et une manières d'être en colère.
Oui, j'allais vous demander à quoi elle ressemble, Princesse Jeanne, parce qu'elle a quand même un faciès, notamment. Tout à fait. C'est reconnaissable.
Je fais un peu peur. Donc, non, je laisse ma performance zombie contre l'extrême droite avec du sang partout, quand même pour les clubs et la nuit. Mais j'ai quand même fait une performance sur la monstruosité, parce que et vu que je fais du stand-up, parce que moi je suis comédien aussi dans la vie, j'introduis quand même souvent par de la parole, du dialogue, etc. Mes performances. Donc je fais aussi de la lecture de poésie. Là, par exemple, je pense pas que je vais faire une performance sur un lip-sync samedi, mais je vais parler justement de ma trentaine, de genre la décennie, de la vingtaine qui vient de passer, à quel point c'était difficile, genre les coming out, trouver sa place dans la société et tout. Et maintenant, genre, ok, j'ai 30 ans, j'ai envie de glow up et tout. Et en fait, voilà, j'ai un drag vénère, mais je le garde parce qu'en fait, on est en colère contre la société et rien de mieux de le faire dans l'espace public parce qu'on va pas se cacher, quoi. Voilà.
Et effectivement, donc il y a ce personnage de drag queen, drag queer, pardon, Princesse Jeanne. Et vous l'avez dit, vous êtes à la Queerale, vous faites de l'impro, je crois.
Exactement.
On a des connaissances en commun, d'ailleurs, faut qu'on en parle. C'est important, du coup. Pour vous, cette polyvalence qui se retrouve aussi dans Queer sur l'herbe, je boucle la boucle, on en a un petit peu parlé tout à l'heure.
Mais... Bah, tout à fait. Bah, moi, justement, je suis comédienne, j'ai le statut intermittent du spectacle, donc j'ai vraiment un côté pluridisciplinaire. Oui, je fais de l'impro, j'ai un seul en scène d'impro, je fais du stand-up, je fais du drag. Pas toujours payé, en effet, parce que le drag est là, malheureusement, Queer sur l'herbe. C'est pour ça que venez nombreux, nombreuses. C'est au chapeau, il y a un Lydia et tout, mais voilà, je ne suis pas encore en mesure de rémunérer officiellement mes artistes, même si le but serait de réussir maintenant, mais genre, et c'est aussi maintenant aux mairies, aux lieux, à la ville de Paris, de donner de la thune aux artistes queer, parce qu'on en a marre d'être précaires aussi. Maintenant, le fait est que on fait avec aussi le bon vouloir du public, mais voilà, moi j'ai pas mal d'activités comme l'impro, le stand-up, le drag, où c'est pas encore malheureusement rémunéré en cachet, donc j'ai aussi des activités genre figuration, escape game et compagnie qui sont payées en cachet, et après j'essaie de me motiver moi en faisant des spectacles qui, j'espère, auront le plus de visibilité possible pour un jour donner de l'argent aux gens que je book.
Voilà. En quelques mots, 3 ans de Queer sur l'herbe, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous aussi, en tant qu'artiste ?
Et beaucoup de bonheur, de rencontres. Enfin, c'est... Il ne faut pas rester seul. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai des pratiques quand même assez solitaires, genre seul en scène d'impro, stand-up, et puis préparer ses perfs drag, t'es quand même un peu seul. Et en fait, de créer un événement, et en fait, d'aller... booker des gens, et puis en fait, c'est genre, tu sais, il y a toujours ce truc de légitimité, tu te dis genre, mais qui suis-je pour organiser un truc ou pour hoster mon propre show, etc. Et en fait, quand tu te rends compte que les gens viennent te voir après en disant, mais merci beaucoup, ça m'a trop fait du bien de performer, en fait, de me lancer, j'osais pas, enfin, on a vraiment des discussions et des rencontres, et en fait, tu vois qu'il y a plein de personnes queer, qui sont juste des personnes extrêmement seules et qui ont besoin, et moi aussi, je suis un puits de solitude totale, et en fait, quand je me retrouve à queer sur l'herbe devant une centaine de personnes qui kiffent, et qu'en fait, on est là à discuter avec les gens, c'est juste des moments de partage qui font extrêmement du bien, quoi.
Eh bien, allons tous entre puits de solitude à Queer sur l'herbe. C'est donc ce samedi 14 septembre de 14h à 18h au but de Chaumont, et on retrouve la programmation et le lieu précis sur votre compte Instagram @queersurlherbe. Rendez-vous sur Radio. radiocampusparis.org à la page de l'émission pour avoir toutes les informations. On finit par le petit agenda.
Oui.
Je commence avec vous, Jeanne.
Bah oui, tout à fait. Et justement, un coup avec Queer sur l'herbe, nous avions invité Club Humide, qui est justement une soirée queer parisienne dans laquelle justement je fais partie des organisatrices. La prochaine, donc, c'est le 21 septembre au club. Soirée queer, trans, pédéguine, avec un drag show, avec justement, là, avec le festival Jerkoff. Donc, c'est sexpositif. Et voilà, c'est tous les corps, toutes les musiques.
À partir de minuit au club dans le Marais. Antonella.
Et ben moi, j'ai un peu envie d'aller me rouler dans la boue à la fête de l'UMA ce week-end, 13, 14, 15 juillet.
Oui.
Alors, vous me direz, être queer, c'est pas forcément être de gauche. On en reparlera. mais voilà, il y a Pomme, Rebecca Warrior, le collectif La Culottée, ça va être bien.
Et les invertis qui ont leur premier stand.
Oui, et je vais d'ailleurs être invité sur ce stand. Voilà, je le précise en tant que le lobby. Puis moi, je vais vite vous parler. Je suis désolé, on n'a pas le temps, de la discoquette organisée par notre XP national qui n'a plus le temps de venir vous voir maintenant. C'est ce samedi 14 aussi. Donc, on va à Queer sur l'Aide. Et puis après, on va à la discoquette. Mmh. C'est à la rotonde de Stalingrad. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Campus Paris. Il est 20h.